écoutez Cartable FM 93.3, à l'occasion des 150 ans de la naissance de Marie Curie, les élèves de seconde 13 du lycée Bellevue vous proposent une émission sur cette grande scientifique.
Bonjour à tous et à toutes, nous vous retrouvons sur Radio Science avec comme invités aujourd'hui Ève et Irène Curie, les enfants de Pierre et Marie Curie. Elles vont nous raconter le parcours et la vie de leurs parents.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Très bien.
Alors, parlez-nous de vos parents.
Alors, notre père est né le 15 mai 1859 à Paris. C'était un physicien français. Il était principalement connu pour ses travaux en radioactivité et en magnétisme.
Quant à notre mère, elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie. Elle était physicienne et chimiste, polonaise naturalisée française.
Et donc, comment se sont rencontrés vos parents ?
Ils se sont rencontrés au printemps 1894 à Paris, au sein du quartier Saint-Germain.
Que faisaient vos parents à cette époque ?
Notre mère venait d'obtenir sa licence en sciences mathématiques et elle hésitait à retourner en Pologne. Et notre père était docteur en sciences physiques.
Quand est-ce que vos parents se sont-ils mariés ?
Ils se sont mariés le 28 juillet à Sceaux et c'est juste après ma naissance que ma mère a débuté ses travaux de thèse sur l'étude des rayons uraniques découverts par Becquerel.
Quand ont-ils reçu le prix Nobel de physique pour la découverte de la radioactivité naturelle ?
Le 10 décembre 1903.
Avec qui était-il associé ?
Antoine-Henri Becquerel. Un physicien qui a donc été lauréat de la moitié de ce prix Nobel.
Quelle était la suite de leur carrière ?
En 1904, notre père a été nommé professeur de physique à la Sorbonne, puis je suis née.
Combien de temps ont-ils travaillé ensemble ?
11 ans au total, car mon père est décédé en 1906.
Cette mort brutale et accidentelle a dû sûrement anéantir votre mère ?
Oui, bien sûr, mais malgré tous les obstacles qu'elle a rencontrés, elle les a affrontés et a pu continuer son travail sur le radium.
Son travail qui lui a valu un second prix Nobel, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. En 1911, elle a reçu le prix Nobel de chimie.
À quel âge est-elle décédée ?
À 66 ans. Son corps a été détruit par les rayons radioactifs auxquels elle a été exposée toute sa vie sans aucune protection.
D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Au revoir et à bientôt.
Au revoir. Au revoir. Merci.
Cette interview imaginaire a été présentée par
Emma Destré
dans le rôle de la présentatrice,
Pauline Julienne
dans le rôle de Ève Curie et Margot Leroy dans le rôle de Irène Curie.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Les petites Curie. C'était il y a 100 ans, dans le noir et blanc, des images d'archives, toute la pénombre de la guerre surgit dans nos vies. Une femme sur le front, sauvant la nation, une femme brillante, exaltée par la beauté de la science.
Accompagnée de son prix Nobel, Marie Curie prouve son potentiel, créant dans l'horreur de la guerre un projet révolutionnaire. Marie Curie survole les champs de bataille en volant de ses petites Curie, dans la grisaille des entailles, donnant naissance à la radiologie.
Offrant plusieurs véhicules à la nation, elle reviendra plus forte. Au réalisme de ses ambitions, ramènera un trésor. Pour y parvenir, elle pénétrera dans le monde des morts, emportant espoir et sourire qui firent d'elle une femme en or. Ce poème a été écrit par Audrey Chevereau, Enola Chaussumier et Maëlle Lanoé. Il a été interprété par
Audrey Chevereau,
Emma Destré
et Pauline Julienne. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour à tous nos auditeurs. Nous sommes sur Cartable FM avec Chloé Monturel dans le rôle de l'animatrice et
Lucie Guénaud
dans le rôle du polonium. Bonjour Monsieur Nium, comment allez-vous ?
Bonjour Chloé, très bien et vous ?
Je vais bien. Parlez-moi de vous, Polo.
Eh bien, je suis originaire de France et mon nom rend hommage à la Pologne.
Pourquoi cet hommage ?
Connaissez-vous Marie Curie ?
Oui, mais quel est le rapport ?
C'est elle qui a fait ma découverte. C'est une femme brillante d'origine polonaise.
Dites-moi plus sur cette découverte.
Lorsqu'elle et son mari m'ont déniché, c'était en 1898, ça ne me rajeunit pas. C'est Henri Becquerel qui m'a présenté à l'Académie des sciences, ce qui leur a permis d'obtenir un prix Nobel.
Comment vous ont-ils trouvé ?
Leur but premier était de chercher un élément plus radioactif que l'uranium dans des résidus de pêche blinde.
Qu'est-ce que la pêche blinde ?
C'est un minerai radioactif.
On peut donc dire que vous êtes un élément radioactif ?
Non.
On dit que...
Mais enfin, je ne suis pas curium ni einsteinium.
Il semblerait qu'il y ait un malentendu. Êtes-vous radioactif dans ce cas ?
Évidemment.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Monsieur Nium ?
J'émettrais des rayonnements nocifs pour l'ADN des cellules.
La rumeur court que vous êtes un assassin.
Certes, je peux être dangereux pour autrui, mais je n'aime pas ce terme. Il faut simplement savoir l'utiliser avec précaution et modestie. Je n'y peux rien, c'est dans ma nature.
Et où pouvons-nous vous trouver dans la vie de tous les jours ?
Eh bien, par exemple, dans la fumée de cigarette.
On peut donc conclure cette interview sur Fumer tue. Merci Polonium de votre venue, et nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons demain à la même heure.
Bonjour à tous et bienvenue sur Cartable FM. Aujourd'hui, nous allons vous en apprendre davantage sur l'histoire des petites Curie. Tout d'abord, il faut savoir que Marie Curie est une femme de science renommée internationale. Elle a, au long de sa carrière, reçu deux grands prix Nobel, le prix de physique en 1903, aux côtés de Pierre Curie et Henri Becquerel pour ses découvertes sur la radioactivité, et le prix Nobel de chimie en 1911 pour la découverte de nouveaux éléments, le radium et le polonium.
Pour en venir au sujet principal, les petites Curie sont des véhicules de tourisme équipés d'appareils de radiologie, avec un dynamo.
Machine à courant continu, fonctionnant en générateur électrique et qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique en utilisant l'induction électromagnétique.
Alimentée par le moteur du véhicule.
Ce projet a été innové par Marie Curie.
Dans le but d'apporter aide et modernité médicale aux soldats sur le champ de bataille.
Elles permettent aussi de prendre des radiographies des malades pour situer plus précisément l'emplacement des éclats d'obus et des balles et faciliter les chirurgies.
L'idée d'équiper des voitures en appareils radiologiques n'est pas nouvelle. En 1905, la revue La Nature consacre un article sur l'association réalisée entre les constructeurs d'automobiles Pantard et Levasseur et le constructeur d'appareils radiologiques Adolf Geif pour créer des postes mobiles. Marie Curie les a donc essentiellement mis en œuvre.
Malgré les administrations contre qui elle doit se battre, Marie Curie réussira à envoyer 18 petites Curie au front, dans le nord et l'est de la France.
Maintenant, parlons plus scientifique. La radiographie est une technique d'imagerie de transmission par rayon X, radiographie X ou par rayon gamma, gammagraphie. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques de haute fréquence de 10 puissance 16 Hz et 10 puissance 20 Hz et qui pénètrent dans la matière.
Elle permet d'obtenir un cliché dont le contraste dépend de l'épaisseur et du coefficient d'atténuation des matières traversées. L'image obtenue et son support portent aussi le nom de radiographie. L'abréviation de radiographie est souvent employée, on parle alors de radio. Le blanc représente la matière la plus épaisse comme les os où le calcium et le phosphore sont présents et ayant un numéro atomique élevé. Ils absorbent plus facilement les rayons X contrairement aux tissus représentés en noir, car le carbone, l'hydrogène et l'oxygène qu'ils constituent ont un numéro atomique trop faible pour les absorber.
La radiographie est utilisée en radiologie médicale, en radiologie industrielle et en radiothérapie. La radiographie s'oppose à l'autoradiographie qui est une technique d'imagerie d'émission. La radiologie est l'étude de la radiographie. Et à l'inverse, la radiographie est l'écriture de la radiologie.
Merci de nous avoir écoutés en espérant que vous en sachiez maintenant davantage sur les petites Curie et son côté scientifique. Ce reportage radio est dédicacé à Eva Hatton qui n'a pas pu être présente mais qui a autant participé au projet que nous.
C'était Alizée Proust
et Yuna Papin.
Bonjour à toutes et à tous, en ce beau jour de juin. Nous sommes là aujourd'hui car nous avons été invités par Cartable FM 93.3 pour raconter notre parcours dans le monde de la science et dans le combat quotidien de la considération des femmes au même titre que les hommes. Qui sommes-nous ? Qu'avons-nous fait ? En quoi sommes-nous toutes aussi importantes que les hommes ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite.
Bonjour à tous, je me présente, je suis Mae Deminson. Je suis la première femme afro-américaine à avoir été dans l'espace.
Dans l'espace ? Vraiment ?
Oui, je nouais dans l'espace et ce n'est pas la seule corde que j'ai à mon arc. Je suis médecin et diplômée en génie civil.
Incroyable, raconte-nous ta vie.
Je suis née le 17 octobre 1956 d'un père travaillant dans un organisme de charité et d'une mère professeure d'anglais et de maths en Amérique, dans l'Alabama. Je suis la petite dernière. À mes 3 ans, mes parents décident de déménager à Chicago afin de nous offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles. À l'époque, je ne suis pas très dégourdie et j'ai peur de quasiment tout. Nous vivons dans un des quartiers chauds de la ville. Parfois, des coups de feu explosent et nous sommes obligés de nous coucher à terre. Une balle perdue est vite arrivée. Mais notre mère veille sur nous comme une lionne sur ses petits. Pas touche ! Si quelqu'un s'avise de nous embêter, elle sort les griffes. Ma passion à moi, c'est la danse et l'espace.
Je commence à danser dès mes 11 ans. Puis, on finit par déménager dans un quartier où je suis la seule noire. La guerre des gangs devenait trop dangereuse. À l'école, ma bouche me vaut un surnom tout mignon, bouton de rose. À l'adolescence, je complexe sur mes origines. Ma mère m'apprend à m'aimer telle que je suis. Les noires aussi sont belles. Mon père me répète toujours une chose. « Maë, ne dis pas que tu es de couleur, tu es noire. » Et je deviens fière d'être ce que je suis. Je suis excellente à l'école. Rien n'arrête ma curiosité scientifique, car c'est dans cette matière que j'excelle. J'obtiens mon bac à 16 ans. Je suis la fierté de mes parents. À 15 ans d'ailleurs, j'ai fait un projet de science sur une maladie qui touche beaucoup les afro-américaines, l'anémie falciforme. Ça m'intéresse beaucoup. Alors je cherche, je lis des articles, puis enfin, j'appelle un labo. Là, on me reçoit et on me propose de rester autant que je veux pour faire mes recherches et répondre à mes questions. Je gagne d'ailleurs le premier prix du concours de sciences de Chicago. Après le lycée, je décide de poursuivre mes études à Stanford, en Californie. Je n'aime pas trop être loin de ma famille, mais il faut bien avouer que la vie d'étudiante, c'est génial. Après 4 ans passés là-bas, je suis diplômée en génie chimique et études afro-américaines. Entre-temps, je me spécialise aussi dans la danse. Après, je décide d'aller à New York étudier la médecine, mais c'est un milieu très masculin et je suis noire. Je suis la risée de mes confrères. Mais une partie de poker, après les avoir terrassés, je gagne vite en respect. Je pars faire un stage de médecine au Kenya, ma terre natale. J'y suis médecin. Je fais une petite crise existentielle. Retourne à New York ? Jamais. Et puis, j'y retourne au final. Puis mon rêve d'enfant ressurgit. L'espace. La NASA recrute. Alors, j'envoie une lettre, sans trop y croire. Et un an après, aussi incroyable que cela puisse paraître, je suis acceptée. Je suis une formation et reste dans l'espace 8 jours. Mon rêve se réalise enfin. Au bout de 6 ans dans la NASA, je la quitte et donne des conférences sur l'environnement. Ah, et je tourne un épisode de Star Trek aussi. Voilà ma petite vie. Après, je lutte contre le sexisme et le racisme. Et ce, jusqu'à aujourd'hui.
Quel parcours ! Grâce à vous, Maë, de nombreuses femmes ont pu par la suite rentrer dans la NASA. Vous êtes un modèle de persévérance et de courage.
Je vous remercie, Marie. Mais dites-nous, quel est votre parcours à vous ?
Eh bien, je suis née le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. Ma mère est institutrice et mon père, appartenant au roi de noble, est professeur de maths et de chimie. Je suis la benjamine. Ma mère et ma sœur meurent du typhus, je me réfugie donc dans les études. J'obtiens la note la plus haute à mon diplôme de fin d'année, je rentre donc dans des études clandestines non autorisées par l'État. Mon rêve est d'étudier la chimie, mais c'est interdit en Pologne, alors je pars en France, comme ma sœur. Je rentre à Paris dans un laboratoire, j'y rencontre mon époux, Pierre Curie. Nous nous mettons à travailler sur les rayons Becquerel afin d'en faire une thèse. Nous travaillons dans des conditions déplorables. Notre petite fille Irène naît le 12 septembre 1897. En 1898, nous découvrons la radioactivité et deux nouveaux éléments chimiques, le radium et le polonium, ce qui nous vaut le prix Nobel en 1903, avec notre ami Henri Becquerel. Notre seconde fille, Ève, naît le 6 décembre 1904. Mon mari meurt d'un tragique accident en 1906. Je suis terrassée de chagrin, mais je continue mes recherches. Je décroche un second prix Nobel en 1911, mais j'ai bien failli ne pas l'avoir, celui-là. Pourquoi ? Parce qu'on m'accuse d'avoir une liaison avec Paul Langevin, un autre scientifique de renom. Le congrès Nobel mélange tout. N'ai-je pas le droit à ma vie privée ? Est-ce parce que je suis redevenue heureuse que je n'ai pas le droit à ce prix ? La première guerre éclate et je veux aider. J'invente alors les petites Curie, de drôles de camionnettes qui sont en fait des centres de radio. Cela permet de sauver de nombreux soldats aux os cassés. Ma fille, Irène, m'assiste alors qu'elle n'est âgée que de 18 ans. À la fin de la guerre, je deviens une figure médiatique en Amérique. J'y fais campagne pour récupérer des dons pour la recherche sur la radioactivité et la traite du cancer par cette méthode. Je deviens un modèle pour les jeunes femmes voulant se lancer dans les études scientifiques ou voulant étudier tout court en Pologne. Malheureusement, mon corps est ravagé par les radiations. Je meurs donc à l'âge de 66 ans en 1934. Je reste à aujourd'hui un grand personnage. Il n'y a pas longtemps, mon corps a été transféré au Panthéon. Je suis la seule femme parmi les hommes, féministe jusqu'au bout.
Vous êtes une femme extraordinaire. Votre volonté et votre intelligence font de vous ce que vous êtes, une icône.
Je vous remercie, Genouet. Vos compliments me vont droit au cœur. Mais vous me paraissez bien modeste. Qui êtes-vous ?
Oh, vous savez, je ne suis pas très importante. Je suis née au sud de la Chine, à Guilin. Je suis fille unique, évidemment. Je vis une enfance heureuse. Ma mère est femme au foyer. On voyait d'un mauvais œil à cette époque une femme qui travaille avec un enfant en bas âge. Ma mère respecte les codes. Elle ne conteste jamais, contrairement à mon père qui fait partie des génies de l'État. Il est géographe et chimiste. Un lanceur d'alerte faisant partie des pupilles de l'État dévoile des informations secrètes sur le fonctionnement de l'État. Il y a des représailles. Les forces armées pensent que c'est mon père qui fait partie d'un groupe de rebelles et fait partie des cerveaux de l'État comme on les appelle. Il est arrêté et enfermé dans des camps de concentration comme ceux pour les Juifs. Ma mère et moi sommes expulsés de notre maison, puis placés de force dans une autre ville au nord. C'est très, très loin de chez nous. Ma mère est bien obligée de travailler et elle enchaîne les petits boulots. Misérable. Je travaille dur à l'école sans trop comprendre où est mon père et ce que je fais dans cette ville. Puis au bout de 10 ans, l'État le relâche, mais il meurt 5 ans plus tard de la tuberculose, du cancer et de la malnutrition qui l'ont affaibli. Je pars en France, car faire des études en Chine en étant une femme est très compliqué. J'y vais aussi pour valider mon doctorat en sciences et là, je tombe amoureuse du pays. Alors j'y reste. Je m'installe au Mans, petite ville calme et sereine, ça me change de la pollution et des gratte-ciels. Je trouve un emploi au labo à côté de l'université. Je fais des recherches, des tests sur les aliments que nous mangeons. C'est toujours mon métier à aujourd'hui. Ma mère est morte, mais je retourne très souvent en Chine voir ma famille.
Marie avait raison, vous êtes bien trop modeste. C'est grâce à vous que nous nous empoisonnons pas avec des pesticides, et ce, chaque jour. Vous êtes vous aussi une héroïne.
Une héroïne de l'ombre, vous voulez dire ?
Non, une héroïne tout court. Nous sommes toutes des héroïnes à notre manière. En tant que femmes, nous nous devons d'être des héroïnes. Sinon, comment voulez-vous que la parité existe ?
Bien dit, Marie. En tout cas, merci d'avoir écouté nos récits, chers auditeurs. Nous vous souhaitons une bonne journée et rappelez-vous, mesdames, nous sommes toutes des héroïnes à notre façon. Cette interview imaginaire a été présentée par Margot Bourgeois,
Lilia Mancourt,
Perrine Aparicio.
Retour sur l'année 2017 qui fut une année d'hommage pour Marie Curie avec une petite rubrique scientifique. Mais d'abord, qui était cette femme ? Cela fait maintenant 150 ans que le génie qu'elle était voyait le jour en Pologne, plus précisément dans un vieux quartier de Varsovie, auprès d'un père professeur de physique et d'une mère institutrice. C'est à cause de la situation dans laquelle se trouvait son pays que Marie posa pied à Paris. En 1891, elle étudia à la Sorbonne et empocha une licence de physique puis de mathématiques avant de rencontrer Pierre Curie, avec qui elle se mariera en 1895. Il deviendra d'ailleurs le père de sa fille 2 ans plus tard, en 1897. C'est alors, un beau jour, que le physicien français Henri Becquerel rangea sa plaque photographique près de celle d'uranium qu'il était en train d'étudier. Il découvrit que le film photographique avait été impressionné sans avoir été exposé à la lumière et en conclut que l'uranium émettait des rayonnements invisibles. C'est alors que Marie Curie et son mari Pierre Curie entamaient leur travail en lançant la théorie de radioactivité.
On rappellera d'ailleurs les récompenses qu'a obtenues Marie Curie et son couple avec Pierre Curie, à savoir le prix Nobel de physique en 1903, et le prix Nobel de chimie en 1911. Pour commencer, nous allons vous définir quelques termes pour faciliter la compréhension de notre petite chronique. Il faut d'abord comprendre que tout ce qui nous entoure est composé de molécules, que ce soit l'eau que l'on boit, l'air que nous respirons, ou même nos propres cellules. Ces molécules sont elles-mêmes composées d'atomes que l'on représente sous forme de billes ou de boules de diverses tailles et couleurs. Par exemple, l'oxygène est rouge, et le carbone est noir. La matière est donc composée de minuscules entités, les atomes. Chaque atome est constitué d'un noyau autour duquel tournent très rapidement des électrons de charge électrique négative, un peu comme un système planétaire. Ce noyau est constitué de 2 types de particules, les protons, de charge électrique positive, et les neutrons, de charge électrique neutre. Les neutrons et les protons sont collés les uns aux autres grâce à une force de cohésion appelée interaction nucléaire, qui est généralement suffisante pour les maintenir ensemble. On dit alors du noyau qu'il est stable.
Maintenant que cela est mis au clair, on peut rentrer dans le vif du sujet, la radioactivité. Certains noyaux contiennent trop de particules ou renferment trop d'énergie, de sorte que la force de cohésion n'est plus suffisante pour maintenir les protons et les neutrons ensemble. Les noyaux sont instables.
Un noyau instable finit par libérer son trop-plein d'énergie en émettant des rayonnements, un peu comme la projection d'un boulet de canon. C'est ce phénomène de désintégration que l'on appelle radioactivité. Au moment de la désintégration, un noyau peut libérer différents types de rayonnements. Il en existe trois types. Les rayons alpha, pouvant être arrêtés par une simple feuille de papier.
Les rayons bêta, ne parcourent que quelques centimètres dans l'air.
Et enfin, les rayons gamma étant très pénétrants. Il faudrait plusieurs épaisseurs de béton pour les arrêter.
Merci de nous avoir écoutés. Cette rubrique scientifique a été écrite par
Laura Péloil,
Clarisse Emery. Merci.
Bonjour chers auditeurs, nous sommes ici pour vous présenter notre journal qui s'appelle « La science est féminine ». Donc la devise de ce journal est « Le journal qui dément les propos des opposants à une science nouvelle et moderne ».
Nous allons vous lire quelques extraits de notre journal. La petite Marie Curie est en effet polonaise, d'où son nom Marie Słodowska. Elle grandit dans ce pays natal qui lui est cher et dont elle gardera à jamais les racines. Seulement, la Pologne, sous domination russe, ne lui permet pas des études acceptables et valorisantes, car c'est une femme. En effet, l'époque censure toute forme d'éducation pour les jeunes femmes, mis à part celle de la maison. C'est ainsi qu'en 1891, poussée par sa sœur et par quelques professeurs résistantes, Marie se met en route pour la France. Cette dernière aura été pour elle l'aboutissement de 7 ans d'économie fastidieuse et de rêve. Elle est nommée première de l'Université de Paris
en 1894. Cette même année, tout lui sourit puisqu'elle rencontre Pierre Curie, avec qui le courant, c'est peu dire, passe bien. Que ce soit d'un point de vue scientifique ou sentimental, ils sont sur la même longueur d'onde. Alors en 1898, il fallait que cela arrive, ils font ce qui restera sûrement l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle, un nouvel élément chimique appelé radium.
Par la suite, Pierre et Marie recevront non sans difficulté le prix Osiris, mais encore et surtout le fameux prix Nobel, 70 000 francs à l'époque. Malheureusement, Pierre meurt bêtement d'un accident de rue en 1906.
Marie, seule et plongée dans un désespoir profond, se rattache aux deux filles qu'elle a eues avec Pierre quelques années plus tôt, mais aussi et surtout à la science.
Premièrement, elle remplacera Pierre en étant que professeur à la Sorbonne, puis elle recevra le prix Nobel de la chimie, seule. Cette fois, enfin, elle marquera la Grande Guerre au fer rouge grâce à ses investissements dans la mise en place de voitures transportant du matériel radiologique sur le front.
Voitures qu'elle aime appeler affectueusement les petites Curie. Aussi, est-ce peut-être une référence aux femmes qu'elle forme elle-même à leur utilisation. Marie décédera le 4 juillet 1934 des suites d'une leucémie avant que ses cendres et que celles de son défunt mari ne soient transférées au Panthéon.
À travers la recherche scientifique, qui occupe une place primordiale dans sa vie, Marie devint malgré elle, d'ailleurs, une sorte d'icône du féminisme. Ce n'est qu'à partir de l'émancipation des femmes après la Seconde Guerre mondiale que les féministes s'approprieront le personnage de talent qu'est Marie Curie, pour en faire un emblème. Les féministes ont ainsi trouvé une perle rare, une femme contribuant à la découverte du radium.
Après analyse, il faut dire que la reconnaissance à l'égard de Madame Curie pour ses découvertes ne fut existante qu'après l'attribution de son prix Nobel de la chimie, prix qu'elle obtint seule et exhibé aux yeux du monde, tous les hommes, quels qu'ils soient, sont forcés de reconnaître la contribution majeure de Marie dans le monde scientifique. Il s'en suivit l'inauguration d'un lycée exclusivement réservé aux filles, où Marie s'employait à les instruire, pour qu'elles aussi un jour, elles deviennent de grandes scientifiques. Au fait, c'est la première femme à recevoir un prix Nobel, non ? Que dis-je ? Deux prix Nobel ! Et ce n'est pas seulement la première femme, mais tout simplement la première personne à s'en voir décerner deux.
De telle façon que même à titre posthume, elle ne fut pas non oubliée, mais bien honorée par le monde entier, et particulièrement la France. Inhumée au Panthéon aux côtés de Pierre est bien la preuve d'un hommage évident des Français à une femme, une vraie. D'ailleurs, Marie Curie disait « La vie n'est facile pour aucun de nous, mais quoi ? Il faut avoir de la persévérance et surtout de la confiance en soi. » Il faut croire que l'on est doué pour quelque chose et que cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte. Enfin, Marie Curie a fait parler d'elle tout au long de son existence et notamment à l'occasion de films réalisés sur sa vie exceptionnelle.
Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Les rédactrices de ce journal, Léa Vincent
et Juliette Chaperon.
Très chers auditeurs et auditrices, c'était la classe de seconde 13 du lycée Bellevue
Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter nos productions, le fruit d'une année de travail et de recherche autour de Marie Curie et les femmes qui ont marqué l'histoire. À très vite, je l'espère, sur Cartable FM 93.3.